Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces premiers épisodes de notre nouvelle émission It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis aujourd'hui avec les fondateurs de la newsletter It's Business et co-animateurs de cette émission, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Avant de démarrer notre revue de presse de cette semaine, Olivier, j'aimerais inviter nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à écouter l'épisode 0 des It's Business où nous présentons les concepts de cette nouvelle émission sur Business of Bouffe. Et je vous conseille également de vous inscrire à la version écrite de la newsletter pour recevoir la version complète avec tous les articles et liens. Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofbouffe.com ou its.business. Alors Olivier, aujourd'hui je vois que nous avons une sélection assez éclectique comme d'habitude. Nous allons parler des boissons alcoolisées sans alcool, des pains au chocolat et chocolatine et de l'intelligence artificielle appliquée à la gastronomie. Commençons avec la presse française et les premiers articles sur le site d'Europe 1 qui fait référence aux boissons alcoolisées mais quelque chose d'assez particulier sans alcool. C'est quoi cette histoire ?
Alors effectivement, on est en janvier, et le mois de janvier, depuis quelques années, ça s'appelle le Dry January.
Oui, je vois.
Ça a été ces anglo-saxons qui avaient lancé ça, où le but, c'est de ne pas boire d'alcool. Hein, donc bon, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais l'idée derrière tout ça, c'est il faut aussi y voir une tendance de fond, dans le sens où il y a aujourd'hui une demande pour des boissons sans alcool, enfin non alcoolisées, on va dire ça. Et du coup, les industriels du secteur ont commencé à s'en emparer. Hein. Donc, Diageo a lancé, a racheté une start-up qui s'appelle Seedlip.
Tout à fait.
Qui fait des boissons à partir de... Enfin, c'est les mêmes processus, en fait, que pour le gin, par exemple. Mm-hmm. Sauf qu'ils vont enlever l'alcool. Et du coup, on se retrouve avec des boissons sans alcool, mais qui ont le même goût, a priori, que ces boissons-là. Alors, je n'ai pas goûté, je n'ai pas testé. Hein. Si les gens de Diageo nous entendent, ils peuvent très bien nous envoyer une bouteille pour tester. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça répond aujourd'hui à plusieurs choses. Dans un premier temps, ça répondait à des questions religieuses, c'est-à-dire que on a des boîtes comme Petit Béret.
Béret, juste pour préciser, moi je ne connaissais pas, en fait, c'est une boîte qui fait du vin sans alcool.
Tout à fait, c'est du vin sans alcool, donc Petit Béret peut répondre à des marchés dans des pays du Moyen-Orient où la consommation d'alcool est interdite par la religion. Donc la base, ça peut être ce marché-là. Maintenant, il faut y voir aussi un autre marché, c'est-à-dire que la consommation d'alcool, que ce soit en France ou dans les pays anglo-saxons, a la tendance à diminuer. Et il y a de moins en moins de monde qui va boire régulièrement du vin ou des alcools forts. Donc aujourd'hui, on a des gens qui se retrouvent avec leurs amis dans des bars. Enfin, plus en ce moment, mais quand ils vont y retourner, ils vont être avec leurs amis. Et ces gens-là ne boivent pas d'alcool. Et en fait, il y a un petit problème social en France. C'est-à-dire que quand on ne boit pas d'alcool, on est parfois mal vu. Et les gens vous demandent, mais tu ne bois pas d'alcool, mais comment ça se fait ? Et ces gens qui ne boivent pas d'alcool sont quelque part un peu énervés aussi qu'on leur pose la question pourquoi ils ne boivent pas d'alcool. Ça peut être des choix personnels.
Ils ne sont pas intégrés peut-être parfois dans le...
Oui, socialement parlant, c'est encore un peu mal vu. Donc le fait aussi que... Dans les bars, il y avait jusqu'à présent assez peu d'options pour les gens qui ne buvaient pas d'alcool. Hein.
On leur proposait des jus, des sodas
ou des eaux gazeuses, par exemple. Donc du coup, ça permet à ces gens-là de commander, admettons, une bière sans alcool ou un spiritueux sans alcool. et peut-être de pas avoir la question, mais pourquoi tu bois pas d'alcool en fait ?
C'est clair, bah c'est très intéressant. J'avais pas intégré cette dimension-là. Moi, ce qui m'a scotché dans l'article, c'est la dimension business. En fait, on a un patron d'une brasserie qui fait de la bière sans alcool, qui parle d'une croissance très importante en 2020. Quand les brasseurs, en fait, les producteurs des bières, ils ont souffert avec la fermeture des bars et restos, et même les patrons des petits béhés qui parlent d'une augmentation, une croissance dans son chiffre d'affaires des 80% chaque année depuis quelques années.
Oui,
alors donc la demande des consommateurs, elle est très très forte en fait.
Alors, ça reste un petit segment.
Hein, On est d'accord.
Par rapport au business de l'alcool, ça reste un petit segment, par contre, qui est en très forte croissance. Mais on parle business, donc il y a un aspect business qui est aussi intéressant là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes une multinationale qui fait des spiritueux. Si vous faites un spiritueux sans alcool, du coup, vous n'avez pas à payer toutes les taxes et les assises sur ces alcools-là.
Ah, tu touches un bon point.
Donc, quand vous vendez un Seedlip ou une autre marque,
tu fais plus
30
des marges.
Euros, et ben vous n'allez pas payer les 13-14 euros de taxes d'assises. Donc, vous pouvez éventuellement garder pour vous toute cette marge que vous devriez payer normalement en taxes.
Donc, c'est un très bon business en plus.
C'est un business qui est très bon pour les bidas des entreprises, on va dire.
Bon, on continue en fait avec l'alcool. On va parler plutôt de champagne. Là, on a les fêtes sont finies, mais c'est un produit qui évidemment attire beaucoup les Français. Et là, champagne biologique. C'est sur France Bleu, quand les grandes maisons des champagnes s'y mettent aussi. Alors moi, juste en parenthèse avant de te laisser la parole. En fait, comme tu sais, Philibert et moi, on a travaillé chez LVMH, on connaît un petit peu ces secteurs. Et c'est vrai que les bio dans les champagnes, c'est pas un sujet qui avait beaucoup de popularité il y a quelques années.
Ouais, et encore maintenant, hein, en 2020, on estime que seulement 3,5% des surfaces de l'appellation champagne étaient cultivées en bio.
Donc ça
reste très très peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas forcément de demande spécifique sur le bio ? Je pense pas. Je n'ai pas forcément d'explication. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aujourd'hui des grandes maisons qui s'y mettent.
Finalement.
Donc là, on a Vranken Poemery qui a annoncé qu'il allait convertir 175 hectares en bio. Il y a aussi la maison Roederer qui a déjà converti 116 hectares sur 240 en bio. Donc, ils vont sortir des champagnes qui seront certifiées bio cette année. Donc, il y a peut-être un effet d'entraînement de ces grandes maisons sur l'ensemble du secteur.
Mais je pense qu'on voit ça même dans les vins au sens large. C'est les AOC plus connus comme Bordeaux, Bourgogne ou Champagne, ils mettent un peu plus de temps à s'intéresser à tout ça parce qu'ils sont assis sur des business quand même assez importants. Ils ont une demande qui est très très forte et peut-être les régions viticoles un peu moins connues internationalement comme la Loire, l'Alsace ou les Sud. Dans les Sud par exemple, ils adhèrent plutôt plus vite à la dimension bio.
La dimension bio, il faut voir aussi s'il y a une demande. Le champagne a quand même eu une très mauvaise année 2020. Donc, est-ce que en sortant des bouteilles bio qui vont être forcément plus chères, à mon avis, alors je ne sais pas quel va être le premium pour le bio. Toute la question, ça va être est-ce que les consommateurs vont suivre.
Ça, c'est une autre question encore.
Sur des produits bio qui ont un premium parfois important, hein, il faut le dire.
Et j'ai lisé l'article. En fait, c'est ce qui est important aussi comprendre un champagne, c'est que même ces grandes maisons, elles produisent très peu de raisins par rapport à leur production. En fait, une grosse partie s'est achetée auprès des viticulteurs. Et donc, ils travaillent avec ces viticulteurs pour les inciter à qui, eux, se mettent à produire du bio. Ce n'est pas le cas pour toutes les maisons. Et notamment, ce qui était intéressant dans l'article, il faisait la comparaison avec l'Alsace, que tu connais. Très bien, qui a un climat qui est plutôt similaire à la Champagne. Et en Alsace, ils ont fait évoluer certaines techniques pour pouvoir éviter des maladies sans avoir accès à des pesticides.
Voilà, donc après, effectivement, on peut faire évoluer la vigne avec de l'agronomie. Ça va être un vrai challenge pour. Pas qu'en Champagne, hein, finalement, de toute façon. C'est qu'effectivement, le bio demande quand même plus de main-d'œuvre. Ça demande d'avoir peut-être plus de tracteurs qui vont passer dans la vigne pour
plus d'humains,
couper l'herbe.
Peut-être.
Voilà, plus d'humains. Donc, ça veut dire aussi plus de frais fixes. Donc, à voir comment adapter. Peut-être que si on a des pieds de vigne qui vont produire un peu plus, on pourra compenser les frais fixes par un meilleur rendement. Donc, il faut voir.
Ouais, c'est souvent pas les cas quand on passe en bio, mais c'est très intéressant de toute façon. Je pense qu'ils sont forcés à prendre cette voie-là de toute façon.
Tout à fait.
Parlons de l'avenir, en fait, avec ces troisième articles sur les échos, c'est que nous mangerons en 2030. Alors, en quoi consiste cet article ?
Alors, en fait, c'est un article qui est basé sur une note de Céline Lenné, qui est la fondatrice du cabinet de veille et de prospective Alim Avenir, qui s'intéresse beaucoup à l'alimentation à horizon 10 ans. Donc là, elle s'est projetée sur 2030. Et donc, parmi ces projections, ça va être un apport en protéines qui va être encore plus diversifié. Hein. On va avoir une percée de certains produits à base de lupins.
Ouais, j'ai vu ça.
Hein, de chanvre,
intéressant.
Des céréales qui sont peut-être moins connues que le blé et le maïs, comme le teff.
Ouais, j'ai vu ça. Les teff, c'est un céréale africain, en fait, à l'origine. C'est ça, sans gluten.
Voilà. Donc, il y a une demande sur le sans gluten. Donc, il faut trouver des alternatives au blé. Mmh. Donc, le teff peut apporter cette alternative. On a également le kernza, qui est aussi une céréale un peu ancienne, mais qui revient un petit peu au goût du jour.
Mmh.
Donc tout ça, ça va...
Très produit aux États-Unis, non, si je ne suis pas...
Je ne sais pas exactement les endroits où c'est produit, mais en tout cas, on voit un retour de certaines céréales qui avaient peut-être un petit peu... Et de légumineuses aussi, hein,
bien sûr, qui avaient été abandonnées.
Qui avaient été un petit peu oubliées chez nous.
Qui sont des très bons remplaçants pour un très bon substitut à la viande, à la protéine animale.
Voilà. On a quand même de plus en plus de substituts à la viande. Et donc, il y a une demande forte sur des protéines végétales donc, et des légumineuses qui sont à la base utilisées pour faire ces substituts à la viande. Ouais.
Elle fait référence aussi à des marques comme Beyond Meat, Impossible Foods, avec des faux burgers, des faux steaks. Et elle dit qu'ils seront fabriqués avec moins d'ingrédients et moins d'additifs. Et franchement, je l'espère, parce qu'aujourd'hui, ces produits-là, c'est une fausse bonne alternative, parce que ce sont des produits finalement ultra transformés, en fait.
Ouais, tout à fait, il y a beaucoup de transformations, c'est quand même un peu de la chimie, hein. Ces produits-là, faut pas se leurrer.
Oui.
Mais en tout cas, si ces entreprises-là arrivent à faire des produits, entre guillemets, plus propres ou plus sains, aujourd'hui, il y a quand même un certain engouement autour de Beyond Meat, Impossible Food, mais il faut voir aussi que c'est des produits qui sont utilisés principalement... pour faire des burgers, hein. Donc ça remplace un steak haché, ça ne va pas remplacer une côte de bœuf. Hein.
On est d'accord. Et c'est juste, c'est le point où j'étais un petit peu déçu par rapport à ses prévisions, c'est qu'elle dit que finalement les insectes, ça n'aura pas la popularité attendue en 2030. Alors moi, j'aime beaucoup les fourmis grillées, donc il faut peut-être que je cherche des alternatives aux insectes.
Alors il faut voir, par contre, les insectes sont très consommés... en dehors de l'Occident, c'est dans les pays occidentaux où culturellement, on n'a pas l'habitude de consommer des insectes. Mais si vous allez en Asie, vous pouvez trouver facilement des scorpions, des fourmis. Mais je pense que chez nous, c'est vraiment l'aspect culturel qui va rebuter pas mal de monde. Mmh. Et les insectes vont plutôt être utilisés sous forme de farine.
Oui.
Pas que pour les bêtes, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est utilisé principalement pour les bêtes. Hein. Mm-hmm. On a quelques startups.
Insectes, par exemple.
Insectes ou InnovaFeed qui se sont mis sur ce créneau-là. Mais maintenant, on voit bien quand même avec un peu de recul que les insectes, en tant qu'aliments, ça rebute encore pas mal de monde dans les pays occidentaux.
C'est clair. Bon. Parlons de notre sujet qui nous est très cher aussi, c'est la bio, le bio, et notamment sur Capital, il y a un article dédié à Biocoop, que pour faire face à la concurrence de la grande distribution, il doit s'adapter et faire évoluer son modèle. Alors qu'est-ce qu'ils disent chez Capital ?
Alors déjà, le marché du bio, il a doublé en 5 ans. Aujourd'hui, le bio, c'est 12 milliards d'euros.
Énorme, hein ?
Ouais, c'est un gros marché qui continue aujourd'hui à progresser. Mmh. Et ce qu'il faut voir quand même, c'est que la grande distribution... elle a capté une grosse partie de la croissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la grande distribution, c'est 52% des ventes en bio.
Wow.
Ouais. Donc, Biocoop, lui, c'est un acteur historique du bio, hein. C'est une coopérative de consommateurs, on le rappelle, qui a été lancée au milieu des années 80 et qui fait aujourd'hui à peu près 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et en fait, ce chiffre d'affaires continue à grossir parce que Biocoop ouvre des magasins.
Ils ont 70-80 par jour. On a eu la chance, On a eu la chance de faire quelques épisodes avec Biocoop. On a interviewé les présidents historiques des Biocoop, Claude Gruffa, qui aujourd'hui est député européen, qui nous a raconté un peu l'origine du projet Biocoop, nous a donné beaucoup plus d'informations sur les coulisses du projet. Et à deux reprises, on a eu Pierrick Deron, qui est l'actuel président président, notamment qui est venu nous parler de son ambition de racheter Bio C'est Bon, qui finalement a été racheté par Carrefour. Et on évoquait justement les poids de la grande distribution dans les bio, quoi.
Voilà, donc aujourd'hui, Biocoop et tous ces acteurs traditionnels de la bio doivent faire face finalement à des distributeurs qui ont réussi à massifier des achats, qui vont s'approvisionner, hein, pas qu'en France, mais sur des produits bio à l'étranger.
Les bio d'Espagne qu'on connaît bien.
Voilà, d'Espagne ou même de pays d'Europe
encore
de l'Est.
Encore plus lointaine, bien sûr.
Et du coup, en fait, la grande distribution, elle, arrive à faire à réduire ses frais fixes, on va dire, sur le bio. Et donc, ça force ces acteurs-là à améliorer leur efficacité opérationnelle, clairement, hein, parce qu'il faut plus de rendement pour pouvoir suivre ces concurrents-là. Et donc, ce qu'a fait Biocoop, c'est qu'ils ont nommé en fin 2019 un ancien de chez Carrefour au poste de directeur général, justement, pour apporter un peu cette culture de la grande distribution au sein de Biocoop.
Il y a une ancienne d'Intermarché, c'est d'Intermarché, non ? C'est une ancienne de...
Au marketing.
Système U au marketing, c'est ça ?
Ouais.
Mais c'est tout à fait... Après, nous, on a eu des retours, on a eu déjà des gens... On a entendu parler des gens qui disaient « Ouais, Biocoop, c'est pas pareil parce qu'ils écoutent beaucoup de gens de la grande distribution. » Après, on connaît un petit peu Biocoop et leur engagement reste quand même assez fort. On a eu la chance d'interviewer, c'est un épisode qu'on va publier dans une semaine, SIGA, l'application qui donc la société qui a une application qui mesure les niveaux de transformation des produits. Et aujourd'hui, Biocoop est très engagé aussi sur la dimension de la transformation. Pour la marque propre Biocoop, ils essayent d'avoir des produits qui n'ont pas des marqueurs d'auto-transformation. Donc même si Biocoop fait évoluer son modèle pour gagner en efficacité, ça reste quand même un acteur très engagé dans la distribution.
On est sur un combat entre les tenants de la bio telle qu'elle était depuis plusieurs décennies avec en face des gens qui veulent massifier le bio et qui vont peut-être déconnecter l'engagement des producteurs bio initiaux pour en faire un produit d'appel auprès du consommateur, en fait.
Bien sûr.
C'est un peu ça, le combat, il est un peu là aussi.
Voyons comment ça va évoluer par la suite et notamment comment Carrefour va piloter Bio C'est Bon. Ça serait très intéressant à observer en 2021. Parlons d'un sujet beaucoup plus détendu, décontracté et qui génère quand même un énorme débat en France. C'est les pains au chocolat versus la chocolatine. C'est un article sur RTL qui nous donne plus d'informations sur les origines du débat.
Oui, alors c'est un vieux débat qui agite jusqu'aux plus hautes sphères de la gastronomie française.
Toi, tu es quoi ? Tu es team chocolatine ou team...
Moi, je suis team pain au chocolat.
Pain au chocolat, ok.
Et d'ailleurs, je rejoins la team pain au chocolat de Guillaume Gomez, qui est un grand défenseur de la team pain au chocolat.
D'accord.
Donc, en fait...
Il a en face Cyril Lignac, qui est plutôt chocolatine.
Oui, voilà. Après, il faut faire des fights un peu de temps en temps. Mais en fait, on apprend que ce débat-là, il est assez vieux, en fait, et ça remonterait aux origines. En fait, les origines du pain au chocolat en tant que tel, ça a été amené par un Autrichien, un boulanger autrichien, qui a apporté la viennoiserie en France, d'accord, qui s'appelle Auguste Zang.
Okay.
Et en fait, parmi les viennoiseries qu'il a apportées, il y avait des chocoladen croissants. Et donc, certains pensent que chocoladen... C'est ce qui est à l'origine du mot chocolatine, cette consonance chocoladonne. Alors pour les tenants du pain au chocolat, en fait, certains disent qu'on dit pain au chocolat parce que ça viendrait du goûter des enfants qui aurait
du chocolat.
Remplacé cette viennoiserie par un morceau de pain et une barre de chocolat. Et il y en a d'autres qui pensent que en fait c'est une chanson de Joe Dassin qui s'appelle le petit pain au chocolat, qui serait vraiment à l'origine de la généralisation du terme pain au chocolat, finalement.
Écoute, si c'est chocolatine, c'est pain au chocolat, ça reste une viennoiserie délicieuse et c'est le plus important.
Voilà.
Sans qu'on se fasse plaisir. Alors là, les prochains articles, tu m'as quand même surpris. Là, je ne m'attendais pas à trouver un article des Voici sur It's Business, mais c'est un article qui parle de bouffe et il parle en plus d'un fromage que pour moi, méconnu, un fromage suisse qui s'appelle Isbrinz et apparemment qui est très à la mode en ces moments.
Oui, moi j'étais aussi un peu étonné que Voici nous parle de fromage. Mais en fait, le Sbrinz, c'est un fromage suisse qui est réalisé à base de vache, de lait de vache, hein, qui est certifié AOP et qui est produit par contre par seulement 26 fromageries d'alpage.
J'ai vu ça, ouais.
Alors a priori, au goût, il a une saveur salée et corsée. Et ça va dépendre aussi de la durée d'affinage. Donc c'est 18 à 38,
c'est
36 mois d'affinage.
C'est plutôt longue.
Et a priori, il se consomme un peu comme on consommerait un parmesan. C'est-à-dire que...
Paix sur les pâtes.
Ouais, on ne le coupe pas au couteau. On va prendre des petites bouchées avec ses doigts.
Ça vient assaisonner les plats, en fait.
Voilà. Donc... Personnellement, je n'ai pas encore goûté le Sbrinz.
Bah, écoutez, si nos auditeurs y connaissent, ils veulent nous envoyer chez Business of Bouffe, vous pouvez retrouver l'adresse sur les sites, on sera ravis de les goûter. Vu qu'on est en Suisse, est-ce qu'on passe à la rubrique presse étrangère?
Allez, c'est parti.
Allez, donc des premiers articles sur la publication Vox, « The year shopping changed forever ». L'année où l'e-commerce a changé à jamais, où l'achat, les shopping, les commerces a changé à jamais. Ça parle de l'évolution de l'e-commerce aux États-Unis, évidemment avec cette année 2020 et les confinements.
Ouais, voilà. 2020, ça a été vraiment ce qu'on appelle un leapfrog pour le e-commerce. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'en quelques mois, ils ont fait un saut de 3 à 5 ans en part de marché. Hein.
C'est énorme.
Et en fait, c'est un article qui fait une rétrospective finalement très, très complète.
Très intéressant, hein, de l'année qu'a vécu. Il y a beaucoup de chiffres, en fait.
Il y a beaucoup de chiffres très intéressants sur vraiment l'année qu'a vécu le commerce de détail aux États-Unis. Hein. Mm-hmm. Et finalement, on pourrait résumer cet article. Hein, nous nous souviendrons de l'année 2020 comme l'année où les achats en ligne ont cessé d'être l'avenir du commerce de détail et ont été propulsés dans le présent.
C'est beau, ça.
Et finalement, quelques chiffres qu'on a trouvés là-dedans, c'est fin 2019, environ 13% des achats au détail, donc si on enlève les voitures et l'essence, avaient été effectués en ligne, selon une étude réalisée par Mastercard. Et en 2020, les achats en ligne, ils ont augmenté de plus de 30%.
Wow.
Et donc aujourd'hui, aux États-Unis, 20% du total des achats au détail sont réalisés en ligne.
D'accord. Et l'article fait aussi référence au géant Amazon, qui est apparemment des grands gagnants, évidemment, de cette année 2020, qui a une part des marchés des 39% aux États-Unis. 39%.
Voilà. Donc Amazon, comme en France, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Hein. Mm-hmm. Amazon, c'est clairement le grand gagnant de la pandémie. Hein. Mm-hmm. Et Amazon, aujourd'hui, c'est effectivement 39%. Donc les ventes ont augmenté déjà de 39%. Mais surtout, si on additionne tout le e-commerce aux États-Unis, Amazon fait 39% du total du e-commerce aux États-Unis.
C'est énorme.
Et si on prend en France, pour vous donner un ordre d'idée, Amazon, la FEVAD, estime qu'Amazon aurait capté à peu près 20% du e-commerce.
Ouais, ça reste quand même énorme pour la France. C'est un acteur qui pèse trop. Et on a vu ces débats, surtout avec la fermeture des librairies, par exemple, pendant la deuxième vague du confinement, où les gens incitaient à évidemment acheter dans les commerces de quartier et éviter de passer ses achats sur Amazon systématiquement.
Ouais.
Mais bon, c'est pas évident parce qu'Amazon quand même a réussi à construire une logistique qui est d'une force incroyable et qui rend sa position assez forte et difficile à battre quand même.
Oui, Amazon a aussi fait une percée dans l'alimentaire finalement, avec une place de marché qui a été lancée il y a quelques années déjà, mais qui permet à différentes petites boîtes de vendre via la place de marché
bien,
Amazon.
Ça, tu as des retours. Moi, je n'ai jamais suivi, jamais entendu parler comme ça, comme étant un canal important pour ces acteurs-là.
Je pense que c'est un canal important quand vous êtes une petite boîte parce que Amazon va vous amener directement une audience forte.
Mmh.
Donc, c'est bien pour lancer un produit a priori.
Mmh.
Après, j'ai pas de chiffres exacts sous la main.
On va s'intéresser ça lors d'un prochain épisode. On parle aussi dans l'article de Shopify et nous, chez Business of Bouffe, et notamment dans notre agence des bouffes, on adore Shopify. Nous avons lancé deux sites cette année, 2020, pour nos clients sur Shopify. Et franchement, c'est une solution qui est excellente pour ceux qui veulent se lancer sur l'e-commerce. Elle est clé en main. On a plein de plugins faciles à installer et mettre en place. Et ça me surprend pas qu'ils ont fait une année des records en 2020.
Ouais, Shopify, ils ont carrément doublé leur chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'année.
C'est énorme.
Ils ont doublé et leur cours en bourse a aussi explosé.
C'est
aujourd'hui
la boîte la plus valorisée au Canada, en fait.
Ouais, et aujourd'hui, à fin 2020, Shopify, c'était 138 milliards de capitalisation boursière.
C'est 138 licornes, en fait.
Voilà. Et pour vous donner un ordre de comparaison, ça représente à peu près 10 fois la capitalisation boursière de Carrefour.
Incroyable. Ouais. Incroyable. Et les derniers chiffres, c'est Etsy. C'est un acteur qui est plutôt une place des marchés pour les indépendants.
Voilà.
Qui a aussi fait une énorme croissance.
Etsy, c'est aussi a doublé son chiffre d'affaires aussi sur 2020. Donc, c'est Etsy, c'est une petite place de marché d'indépendants, d'artisans, etc. Donc, on voit que finalement, le e-commerce peut profiter aussi aux plus petits.
Bien sûr.
Et pas qu'aux géants comme Amazon ou Walmart aux US.
Bah, c'est clair. Et même les petits commerçants en France, je pense qu'ils ont vécu ça cette année et en fin d'année. Ils ont vu que l'e-commerce peut être un driver des business.
Le petit commerce en France, oui. Je pense qu'en France, ça a fait aussi.
Ça a accéléré, comme tu dis, en 3-5 ans, la tendance. Parlons d'un autre sujet, un sujet qui me parle particulièrement, c'est un article sur ZDNet, c'est Sony AI launches new project dedicated to gastronomy research. La division d'intelligence artificielle des Sony lance un nouveau projet dédié à la recherche en gastronomie. Une petite parenthèse, je ne sais pas si tu savais, mais j'ai bossé 3 ans chez Sony en fait. J'ai même vécu au Japon grâce à Sony, donc je vous salue les anciens collègues des Sony. Et c'est quoi cette histoire d'intelligence artificielle appliquée à la gastronomie ?
Alors, en fait, c'est un projet de recherche et développement de Sony qui s'appelle le Gastronomy Flagship Project.
Uh-huh.
Et ils vont finalement se concentrer sur 3 domaines. Donc, ils vont faire une application à base d'algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des nouvelles recettes. Mmh. Donc, c'est une chose qu'on avait déjà vue par le passé. Je crois que c'est IBM qui avait fait un algo pour générer des recettes à partir de ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc là, Sony, pareil, ils vont utiliser plusieurs sources de données. Ils vont utiliser des données sur des recettes existantes, sur les ingrédients, sur le goût, l'arôme, la saveur, pour développer vraiment des toutes nouvelles recettes à destination de la gastronomie.
Mmh.
En parallèle, ils vont développer un robot qui est censé aider les chefs en cuisine. Alors, je ne sais pas exactement ce que va faire ce robot, hein, mais...
Espèce de Thermomix plus.
Peut-être un Thermomix avec des bras robotisés. qui...
Ça m'emballe un peu moins.
et ils ont aussi l'idée de faire de la co-création communautaire, comme ils appellent ça.
Mm-hmm.
Donc, ça va s'appuyer sur des partenariats avec la communauté mondiale des chefs cuistots, des universités, des instituts de recherche, des entreprises. Donc, vraiment, ils essayent de monter une communauté autour de cette gastronomie 4.0, on pourrait l'appeler.
Bah écoute, je trouve ça très intéressant. Après, voyons comment ça va évoluer. En connaissant Sony, ils peuvent un peu partir dans tous les sens et se perdre sur la route. Moi, l'histoire des robotisations en cuisine, évidemment, les robots intelligents comme Thermomix qui viennent aider les gens à la maison, même au restaurant, on a appris avec les présidents de Thermomix qu'il y a beaucoup de restaurants, même étoilés, qui utilisent Thermomix en cuisine pour les sauces, pour les mayonnaises et pour d'autres préparations. Je suis un peu moins emballé pour des concepts autour des robots, genre des pizzas faites par des robots, ça m'emballe un peu moins. Après, l'intelligence artificielle, elle peut rendre l'humain plus intelligent et je pense que dans la gastronomie, ça peut pousser les chefs à aller peut-être plus loin dans la recherche, dans les accords des saveurs.
Voilà, peut-être que ça va effectivement être un complément pour certains chefs qui aiment bien tester des nouveaux produits, tester des nouvelles recettes ou des chefs qui ont besoin justement un peu de choses qui les fait sortir de la gastronomie telle qu'ils la connaissent. Donc, pourquoi pas.
Voyons. Alors là, un article, encore une fois, qui me parle particulièrement, c'est sur le New York Times. Brazil is famous for its meat, but vegetarianism is soaring. Le Brésil est célèbre pour sa viande, mais le végétarianisme est en plein essor. Alors, c'est un petit clin d'œil pour moi, ça, Olivier.
Ouais, j'ai pensé à toi quand j'ai vu cet article. Je me suis dit, il faut qu'on le mette. Hein. Mais en fait... Il faut voir que le Brésil, c'est non seulement un gros consommateur de viande, mais c'est aussi un gros producteur. JBS,
c'est
le plus gros producteur mondial. Et en fait, il y a un sondage qui a montré qu'en 6 ans, le nombre de végétariens déclarés, hein, c'est du déclaratif toujours, il a doublé au Brésil.
Oui.
Et du coup, ça entraîne une forte demande justement pour des produits de substitution à la viande.
Comme Beyond Meat.
Comme les produits Beyond Meat. Hein. Et en fait, il se trouve que le Brésil aujourd'hui, c'est devenu un peu un centre quelque part d'innovation sur le développement de protéines végétales à destination de ces substituts à la viande.
Alors ça m'a vraiment surpris. Parce que pour connaître bien les Brésils et la passion des Brésiliens par la viande, il y a un chiffre qui m'a complètement interpellé. Daily, il parle de 14% des Brésiliens qui se déclarent végétariens. Franchement, c'est un chiffre, moi je ne crois pas du tout, pour connaître les Brésils. En France, en Europe, je pense que le pourcentage des végétariens déclarés, il est sous la barre des 10%. Il y a un article récent d'Opinion Ways avec Bindi qui fait référence aux Français qui consomment au moins une fois par semaine un repas végétarien. On parle des 60%, mais pas des Français qui sont 100% végétariens. Les chiffres sont beaucoup plus faibles.
Voilà, les 60% de Français qui consomment au moins une fois par semaine un repas végétarien, c'est ce qu'on appelle le flexitarisme.
On est d'accord, mais 14% végétariens pour un pays comme le Brésil, ça m'a vraiment interpellé, mais tant mieux.
Après, il y a peut-être un mouvement aussi, il y a un double mouvement, il y a un mouvement peut-être plus axé santé, où finalement les Brésiliens se disent qu'il faut faire attention à leur santé et peut-être manger moins de viande rouge, hein, parce que finalement le Brésil c'est beaucoup de viande rouge, il y a beaucoup de poulet aussi, mais
poisson aussi
à la base. Et il y a aussi, je pense, le côté environnement, où finalement la forêt amazonienne est un peu, même beaucoup, on arrache des arbres pour planter du soja qui va nourrir le bétail. Donc, je pense que les Brésiliens sont peut-être aussi attachés à cette forêt-là et,
oui,
et c'est quelque chose derrière.
Même si aujourd'hui, les gouvernements qui sont en place ne font rien pour protéger la forêt, mais c'est vrai que c'est une tendance des fonds de toute façon mondiale et on va tous dans ce sens-là et tant mieux. Notre dernier article qui vient directement de Londres avec The Guardian qui dit, c'est sur la Chine en fait, China to bringing law against food waste with fines for promoting overeating. La Chine qui va adopter une loi contre les gaspillages alimentaires en imposant des amendes à ceux qui encouragent la surconsommation.
Ouais, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en Chine, on a une manière de consommer assez particulière, hein, c'est-à-dire qu'on met tous les plats sur la table, alors on va faire une orgie, il faut toujours que... Il y a un plat de plus que le nombre de convives, par exemple. Vous êtes 5, il faut 6 plats. Donc, du coup, en fait, il y a souvent du gaspillage, énormément de gaspillage.
Quand je suis à table. Quand je suis à table.
Mais en tout cas, c'est culturellement parlant. En Chine, il y a toujours eu beaucoup de gaspillage alimentaire et Xi Jinping a décidé d'y mettre fin. Donc, on en parlait il y a quelques mois dans la newsletter. Je crois que c'est au mois d'août que j'avais mis un article par rapport à ça. Et là, Xi Jinping veut carrément faire une loi pour interdire le gaspillage alimentaire. Donc, une loi un peu coercitive, hein, avec des amendes pour ceux qui vont inciter les gens à surconsommer l'alimentaire, donc des restaurateurs ou des gens qui feraient la promotion des orgies de nourriture. Donc, il y a vraiment... Pour l'instant, c'est à l'état de projet. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner, in fine, cette loi-là. Mais en tout cas, il veut vraiment serrer la vis là-dessus.
Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes les décisions du président chinois, mais je pense que là, c'est une excellente nouvelle pour la planète. Si le gaspillage alimentaire est un énorme souci déjà en France, avec 60 et quelques millions d'habitants, dans un pays comme la Chine, avec presque 1,5 milliard d'habitants, l'impact est encore plus important, quoi.
Tout à fait. Tout à fait, c'est un des grands combats à venir.
Bon, arrivons sur notre partie un peu plus décontractée de cette revue de presse et sur les réseaux sociaux. Donc les premiers tweets, c'est un tweet humoristique qui parle d'un sujet d'actualité qui est la galette des rois.
Voilà, c'est un tweet de Étienne Dorcé qui commence à avoir une petite audience intéressante sur Twitter et qui fait des tweets un peu humoristiques. Et là, en fait, il s'est un peu moqué des marges faites sur la galette des rois. Donc, c'est un tweet, en fait, qui a fait beaucoup réagir sur Twitter, où finalement, on a les partisans de la galette qui disent « Mais oui, mais la galette, il y a quand même du travail, il y a le coût des amendes, etc. etc. » Mais enfin, si on regarde, hein, t'es comme moi, t'as vu les prix, ça va parfois du simple au triple. Hein.
J'ai vu des galettes à 45-50 euros.
Ouais. Voilà, donc ils se moquaient un peu aussi de ces prix parisiens des galettes. Hein.
Après, en défense de nos amis artisans de bouche, pâtissiers, boulangers, franchement, ça reste un produit plaisir et festif. Ils ont droit de gagner leur vie correctement. C'était une année difficile 2020 et personne parle des marges d'Apple sur les téléphones et ordinateurs qui est aussi assez intéressante. Donc,
tout à fait, il faut toujours creuser un petit peu et, voilà. Et on invite aussi ceux qui vont trop critiquer à aller voir ces artisans, pourquoi pas, voir comment ils fabriquent.
Ils passent même à la maison, là, pas de feuilleté, quoi. Deuxième tweet intéressant, c'est sur le storytelling dans le lait qui peut aller assez loin, en fait.
Oui, voilà, c'est un tweet de Jen Silverman qui montre une bouteille de lait frais, hein, c'est aux États-Unis, je pense, où il y a carrément le nom des vaches qui ont produit le lait qui est dans la bouteille. Donc, c'est vrai que...
J'adore.
Alors, c'est pas de la blockchain, hein, mais finalement, avoir le nom des vaches, c'est assez fun.
Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Ça montre que ça vient d'une production à taille humaine, en fait. Ça humanise la production. Moi, je serais ravi de savoir qui a produit, quelle vache a produit le lait.
Que Marguerite a produit.
Marguerite. Et notre dernier tweet d'aujourd'hui, c'est, alors, peut-être une news un peu moins excitante, c'est un sandwich à 19€ et trouvé à l'aéroport des Nice.
Oui, alors l'aéroport, hein, faut bien être honnête, ça nous manque à tous. Hein. On n'aimait pas passer à l'aéroport, mais maintenant ça nous manque. Et cette nourriture dans les aéroports nous manque aussi. Hein. Mais un sandwich à 19€. Un peu moins. Donc,
ça me fait penser, c'est des prix Cédric Grelet avec la qualité McDo. Quoi.
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Après, ça se justifie aussi beaucoup par les prix des loyers très élevés de ces placements à fort trafic. Quoi.
Je pense, mais bon, ouais, la nourriture d'aéroport, ça nous manque un peu. Mais quand on
surtout
tournera dans les voyages, ça nous manquera un peu moins. Hein.
<C'est clair. rire> Olivier, merci beaucoup pour cette première revue de presse ensemble. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle édition et à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt !